Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue dans Star Wars en direct collector, je suis Sébastien Galano et je suis toujours en compagnie de l'inimitable Raphaël Gonod. Salut Raphaël.
Ouais, ouais. Je suis encore là, toujours vivant. Voilà. Oh, c'était Renaud qui chantait ça.
Je sais pas, moi je suis pas très chanson française.
Oh là là, une catastrophe.
Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un peu de la gestion de nos collections, que ce soit aussi bien l'exposition, l'entretien, le choix des pièces qu'on expose, le choix des pièces qu'on préfère ranger. Voilà, parce qu'on a tous une grande collection, enfin à notre échelle. Et voilà, et tout le monde ne l'expose pas de la même manière, ne la gère pas de la même manière. Donc on va parler un peu de tout ça. En attendant, on va remercier nos partenaires, à savoir Citclan.net, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, Mattinbox.net, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Holonet. Alors un petit WhatsApp rapide, Raphaël, on est en plein confinement encore. Comment toi tu vis ton confinement au niveau Star Wars?
Alors c'est un peu compliqué parce que déjà, bon, j'avais commandé des pièces avant le confinement, donc c'est tout bloqué. C'est-à-dire que c'est des pièces que j'ai achetées en Allemagne, par exemple, c'est des supports Kinder Star Wars. Ben, j'attends toujours, le colis est parti, donc on a discuté là sur Facebook, tout est parti, mais bon, on ne sait pas trop où ça se situe dans tous ces mouvements postiers, on va dire. Mais j'espère que ça arrivera un jour. Sinon, ben, en fait, le confinement m'a un peu ralenti sur les achats, ce que j'attendais surtout Disney Plus pour regarder la télé tranquillement avec toutes les séries. Puis elle vient d'arriver aujourd'hui, donc je suis satisfait un peu. Mais sinon, c'est vrai que... Alors, me dire que je suis calmé, faut que j'arrête de mentir. J'ai acheté d'autres cochonneries que Star Wars, voilà, du coup, voilà. Alors, sachant que Star Wars, c'est pas des cochonneries, mais on pourrait le dire.
Non, c'est pas des cochonneries, c'est même des choses indispensables. J'ai
envie de... Tout à fait, un équilibre spirituel et normal.
Ouais. Moi, me concernant, aujourd'hui en WhatsApp, je me suis abonné à Disney Plus aujourd'hui parce que là, on est le mardi 7 avril et ça vient de sortir aujourd'hui en France. On est peut-être le dernier pays dans le monde où c'est sorti. Moi, niveau achat, c'est le néant. Hein. De toute façon, j'ai rien acheté en ce moment. Même si j'avais des choses à acheter, ce serait un peu compliqué. Voilà. Je pense que mon prochain achat, ça sera sûrement le Blu-ray de l'épisode 9. Qui lui aussi est décalé. Donc voilà, je sais même pas quand est-ce que je pourrais me le prendre. On va aussi rappeler, avant de commencer, les deux dernières émissions normalement qu'il y a sur Star Wars en direct. Donc avec Henri et Sylvain, on avait bouclé notre trilogie d'émissions sur les décennies avec les années 90, les années 2000, et puis là on a fait les années 2010. Ce soir, il y a l'équipe québécoise qui enregistre leur critique du Blu-ray de l'épisode 9 justement. Donc l'émission sera sûrement disponible avant la nôtre, voilà. Mais écoute Raphaël, on va pas perdre plus de temps que ça et puis on va partir direction l'hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors Raphaël, comme moi tu es un grand collectionneur de Star Wars, ma première question ce serait déjà, est-ce que tu exposes toutes tes pièces?
Ah ça c'est une bonne question, en fait c'est une question qui, en fait il y a deux réponses, il y a ce que j'aimerais exposer, ce que je peux me permettre d'exposer, parce que je pense qu'il ne faut pas que non plus j'envahisse la maison, donc la mise des règles assez précise avec ma charmante femme, qui consiste à dire que j'ai droit de présenter certaines pièces, mais pas de remplir l'espace de vie de Star Wars. En même temps je dis ça, je suis un peu mauvaise langue, parce que je savourais que j'ai quand même un peu envahi, voire débordé sur les règles qui étaient prédéfinies par mon épouse, qui m'a gentiment rappelé pendant ce confinement que ce serait peut-être bien que je fasse un peu le ménage de tout ce que j'expose. Voilà. C'est vrai que le problème, c'est quand tu as des pièces, tu as envie de les montrer ou de les sortir, ou tout simplement, comme tu n'as plus de place, tu les présentes. C'est vrai que ça commence à occuper pas mal de place. Et puis j'avouerai que la frénésie m'a un peu ralenti aussi, dans le sens que les nouvelles pièces sont surtout des copier-coller de pièces existantes, sous un autre format, peut-être, ou sous une autre matière. Mais je me limite toujours à des choses qui me font beaucoup plus plaisir, plutôt qu'à des achats, on va dire, plus impulsifs. Voilà. Alors c'est peut-être raison gardée à 50 ans, mais c'est, voilà, je fais attention à ce type d'éléments, quoi. Donc c'est vrai que malgré tout, j'avoue que j'envahis un peu l'espace public au sein de mon couple.
Bah, moi, je suis un peu dans la même situation que toi, parce que, bon, dans l'idéal, j'aimerais tout exposer.
Oui, idem.
Mais voilà, il y a deux paramètres qui sont la place et notre conjointe.
Et les enfants. Je te précise que tu vas tout et tu vas découvrir ça.
Voilà, mais qu'il faut respecter, bah, comme tu dis avec ta femme, bah, moi que c'est pareil. Hein, c'est, on vit à deux dans un appartement, je ne suis pas tout seul, donc forcément... on peut pas en mettre partout, et c'est bien normal, même si on a très envie d'en mettre partout. Et moi, actuellement, là on va déménager, du coup j'avais épuré l'appartement de, on va dire, la moitié de ce qui était exposé pour les visites, en gardant vraiment les grosses pièces que je veux, que je pourrais ranger, que je veux toujours avoir à portée de main, quoi. Et ça enlève déjà encore pas mal. Et là, avec le confinement, on a mis un peu stand-by la vente de l'appartement, mais du coup, les pièces que j'ai rangées, étonnamment, elles me manquent pas trop d'être rangées, parce que je sais que je les ai. Donc ouais. Si elles sont dans la cave, dans un carton, c'est pas si grave que ça, je sais que je les ai. Et j'ai aussi la chance d'avoir encore ma chambre chez mes parents quand je vais les voir, et du coup, ça me permet d'avoir une pièce supplémentaire où je peux stocker encore pas mal de choses, exposer pas mal de choses. Donc en fait, chez mes parents, tout ce qui est exposé, c'est plus tout ce qui est les pièces que j'avais durant mon enfance, mon adolescence. Donc c'est beaucoup, beaucoup de figurines Hasbro de 10 cm et mes Atacus, quelques Gentle Giant, des choses comme ça. Et ce que j'ai chez moi maintenant, c'est plus des grosses pièces collection, comme mes figurines Hot Toys, mes autographes, les figurines Black Series que j'ai acquis, depuis que je suis adulte, entre guillemets, quoi. Et quand j'étais adolescent, ma collection était plus petite et j'avais pas ce problème à se poser parce que je mettais tout dans ma chambre, tout tenait dans ma chambre, quoi. Puis après, on grandit, la collection grandit aussi, et puis après, on se rend compte qu'on n'a pas un château, quoi. Donc, tout le monde n'est pas Steve Sans Suite à avoir un musée où on peut tout exposer, quoi. Donc, il faut faire des choix. Du coup, toi, on va dire, à l'heure actuelle, quel est le pourcentage de ta collection qui est exposé et le pourcentage qui est stocké ?
Oh, c'est simple, je pense que j'ai à peu près bien 90% de stocké, 95% on va dire, et 5% d'exposé. Voilà. Mais ça fait pas mal de pièces, je me retourne, je regarde, c'est vrai que j'ai quand même un peu envahi l'espace quand même de la maison.
Ouais. Voilà, quoi. Moi, en termes de pièces, mais alors pas en termes de taille des pièces, parce que c'est deux choses différentes, mais en termes de nombre de pièces, je pense que j'ai la moitié qui est stockée et la moitié qui est exposée. Après, les pièces que j'ai stockées, c'est beaucoup de figurines Hasbro de 10 cm. Ouais. Donc ça prend moins de place qu'une Hot Toys, par exemple. De toute façon, une Hot Toys, au prix où ça coûte, on l'expose. Ouais.
On l'expose. C'est pour justifier.
J'ai un désamour de Gentle Giant depuis pas mal de temps. Et c'était un peu les objets collecteurs que je collectionnais à l'époque avec Atacus. Et autant mes Atacus, je les laisse exposer chez mes parents, mais mes bûches Gentle Giant sont tous rangés maintenant, enfin la plupart sont vraiment tous rangés dans leur carton à la cave. Et c'est pas les pièces qui seraient prioritaires pour le jour où, à déballer le jour où j'aurai un plus grand espace pour toutes mes pièces, quoi. Mais voilà, toutes mes Hot Toys, je les expose. Mes autographes, ça on en parlera après dans la manière dont on entretient la collection, mais bon, c'est dans des classeurs, donc voilà, il n'y a pas de problème, où c'est accroché au mur, donc c'est pas ça qui prend plus de place physiquement. Après, là où c'est compliqué, c'est les Legos. Alors les Legos, j'en ai pas mal, et ranger des Legos qui sont déjà montés sans les casser, c'est un peu compliqué. Voilà.
Ouais. C'était le problème de la journée avec mon fils là, sur les Legos, parce qu'on est en train de monter des Legos aussi, et en fait quand c'est dans le carton ça prend pas de place comme on disait, mais une fois monté ça prend de la place.
Ah ouais. Oui, ça je te confirme, parce qu'il faut garder les boîtes et tout, et c'est vrai que voilà, tu vois, les Legos c'est le jour, voilà, c'est moi je garde toujours les boîtes, toujours les notices, et une fois que c'est monté, c'est impossible de le remettre dans la boîte. Donc en fait, moi je les entoure de papier, de papier plastique, des choses comme ça que je remets dans des grosses boîtes pour que ça reste monté. Et puis voilà, j'ai un carton où j'ai toutes les notices, donc je sais qu'il n'y a pas de problème pour les remonter un jour, quoi. Mais j'ai pas envie de les démonter, pas forcément. Donc voilà, les Lego. Et puis les Lego, c'est surtout des choses qu'on m'offre, en fait. J'achète pas beaucoup de Lego, moi.
D'accord.
Et c'est surtout des cadeaux. Donc en fait, moi, j'arrête d'acheter des Lego. Les prochains Lego que j'aurai, c'est forcément des Lego qu'on m'offrirait, quoi. Voilà. Il y a une époque, je tiens à saluer notre ami Paul Bragard, d'ailleurs, parce que qui me disait, mais moi je mets tout dans des cartons, j'achète, je sais que ça finit dans ma cave, c'est pas grave. Et je me moquais un peu de lui à l'époque. Je me disais, oh non, mais à quoi ça sert d'acheter des trucs si tu peux pas les exposer? Et je lui disais ça à l'époque où moi je pouvais tout exposer encore, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je le comprends en fait maintenant. Parce que j'ai tellement de trucs que je les achète et je sais que ça va pas traîner longtemps dans l'appartement, que ça va vite être stocké quelque part, mais c'est comme mes dédicaces, tu vois, j'ai elles sont dans des classeurs, donc je les vois pas tous les jours, mais voilà, on sait que c'est stocké à l'abri quelque part et on sait qu'on les possède. Et c'est bête, mais c'est un sentiment satisfaisant, quoi.
Ouais, c'est ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, on s'y résigne, entre guillemets, on peut pas dire résigné, mais...
Ouais. C'est plus satisfaisant de l'exposer et de le voir, mais ça reste satisfaisant, voilà, de se dire qu'on l'a, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est comme je disais, je discutais avec quelqu'un, il me dit, oh, t'as ça et ça, oui, ça je l'ai. Et quand tu sors du carton, ça fait non seulement la découverte, tu vois, face à quelqu'un, et puis aussi une toute satisfaction de dire, bah, je le possède, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir à l'histoire des Lego, et je remercie encore Paul pour tous ces super articles qu'il fait sur les Lego sur notre site et sur d'autres sites, qu'on peut voir aussi sur les Lego, c'est quand je monte un Lego, j'ai du mal à le démonter. Voilà.
Ah, c'est un crève-cœur.
Ça crève-cœur parce qu'en fait, je trouve ça très bien quand il est tout démonté, quoi, toutes les pièces tu les assembles, mais une fois que tu as assemblé toutes les pièces, t'as du mal à te résigner à le démonter pour pouvoir le ranger. Voilà. Et un Lego, comme tu dis, c'est fait pour exposer, quoi. Beaucoup plus que quand tu dis un bus, j'ai pas de scrupule à mettre un bus Gentleman Giant à pas l'exposer. Je parle des bus de première génération. Faut dire aussi qu'il y a quand même une overdose des bus. On a quand même été sacrément. Beaucoup, sur le marché, il y a eu énormément de bustes dans différents formats, différentes couleurs, différentes séries, qui a fait aussi qu'a peut-être donné une overdose, donc on a un peu de mal à les exposer parce que les bustes, tout le monde a des bustes, entre guillemets. Ouais. Voilà.
Mais est-ce que, de toute façon, toi, je crois que t'es comme moi, t'es pas complétiste? Parce qu'il y a des gens qui sont complétistes, qui veulent absolument tout d'une marque, mais moi, en fait, j'achète les pièces que j'aime, quelle que soit la marque, quoi.
Ouais, c'est une question que j'avais eue sur internet de la part d'un rocker belge. Un mec qui joue dans une comment ça s'appelle, un groupe, les Choupa Choup, je crois, un truc comme ça, où il évoquait justement dans sa collection, est-ce qu'il faut mieux trier par un type, c'est-à-dire par ce qu'on aime, plutôt que dans la largeur ou dans la longueur d'un produit, en fait. Est-ce qu'il faut mieux avoir un éventail devant soi ou collectionner dans une gamme jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, je fais que de l'Atacus, ou je fais que du R2-D2, ou est-ce que je fais de l'Atacus toute sa gamme, avec du Sideshow, toutes ces choses-là. C'est là la difficulté, et savoir comment on peut gérer tout ça, quoi. Parce que, comme il évoquait, parce que là, on parle des statues, mais ça peut être aussi bien des pins, ça peut être aussi bien des goodies, ça peut être aussi bien des line art, toutes ces choses-là, des cartes. Donc, c'est vrai que aussi le panel de produits fait que la façon d'exposer, la façon de conserver ou de ranger est différente, aussi.
Et après, il y a une question de moyens aussi. Alors, tu vois, par exemple, moi, actuellement, j'ai pas de vitrine, tu vois.
Oui.
Je sais qu'il faudrait avoir des vitrines. Alors, au début, j'étais pas très vitrine parce que je m'étais dit, moi, j'aime bien avoir mes objets de collection à portée de main. Je veux le prendre dans la main, je veux le manipuler, enfin, je le veux à portée de main. Maintenant, j'ai changé d'avis parce que j'ai grandi aussi et je trouve que pour certains produits dérivés, tu vois, des Black Series, je les mettrais pas en vitrine, par exemple. Mais les Hot Toys, je les mettrais bien en vitrine. Et tout ce qui est collection, voilà, je le mettrais bien en vitrine parce que autant les Black Series, j'aime bien leur changer de position de temps en temps, autant les Hot Toys, elles ont une position, généralement elles bougent plus après, quoi, ou je change tous les 6 mois, quoi, mais pas plus. Et surtout, c'est que c'est facile de nettoyer une figurine Hasbro, c'est beaucoup plus compliqué de nettoyer une figurine Hot Toys en tissu, enfin avec l'aspect tissu et tout.
Ouais.
Pour exposer, voilà, dans l'idéal, je pense que j'aimerais bien avoir une vitrine. Mais à l'heure actuelle, c'est posé sur des meubles, à l'air libre. Et du coup, poussière, poussière, poussière. Et bon, la poussière, c'est pas le pire ennemi, encore, c'est le soleil, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais voilà, moi, dans l'idéal, maintenant, dans mon prochain appartement, j'aimerais bien avoir une vitrine pour exposer les Hot Toys, quoi. Enfin, les Hot Toys et d'autres trucs encore, mais.
L'avantage des vitrines, c'est que ça sublime le produit, ça donne une valeur plus. C'est-à-dire, ça le met pratiquement comme un bijou, quoi, dans un écran.
Ouais.
Moi, j'ai fait l'autre démarche, tu vois, j'ai enlevé mes vitrines parce que je trouvais que ça faisait trop. Élitisme dans la maison. C'est, j'ai une maison, vieille maison qui date de 1800 et les vitrines apportent une modernité qui n'allait pas avec l'ensemble de la maison. Donc j'ai arrêté les vitrines, donc je les ai stockées un peu plus haut dans le grenier parce que j'ai acheté des vitrines accessibles. C'est pas du cas que j'avais, c'est des très belles vitrines protégées, verre blindé et compagnie. Je les ai stockées, les vitrines en haut, j'ai été démonté et là j'expose à l'air libre parce que ce que je disais quand tu évoquais quelques instants, moi j'ai pas le problème du soleil dans ma maison. Voilà. Je n'ai pas le problème de la variation de température non plus. Voilà. Ma maison date de 1800. La température est toujours la même, automne, hiver, printemps, et le soleil ne rentre pas dans là où les pièces sont exposées. Voilà. Contrairement à mon grenier, où là, il fait très très chaud. Voilà.
Ouais. Alors que moi, j'ai un appartement traversant ultra lumineux. Donc, chaque pièce exposée est placée stratégiquement pour ne pas être face au soleil. Parce que justement, voilà, on va parler du soleil. Le soleil, quand vous êtes collectionneur, c'est un peu votre pire ennemi. Et ça, on l'apprend avec le temps. Parce que le problème du soleil, c'est que ça va changer la couleur du plastique, des tissus. Et ça va même abîmer, par exemple, aussi tout ce qui est simili-cuir, des choses comme ça, quoi. Je pense à des figurines Hot Toys. Je suis désolé qu'on ait ces problèmes-là. Et pour les autographes, je vous en parle même pas, c'est à bannir absolument. Parce que moi je l'ai appris à mes dépens, le problème du soleil. Alors je savais que pour le gel des figurines, que si on exposait ça en face d'une fenêtre avec le soleil, ça jaunissait avec le temps. Et étonnamment, donc j'ai jamais exposé des figurines, surtout les figurines avec des parties blanches, parce que c'est vraiment les parties blanches qui jaunissent très vite. J'ai jamais exposé mes figurines directement au soleil. Je me suis rendu compte que voilà, même j'ai quelques par exemple figurines de clones Hasbro qui ont quand même jauni alors qu'elles sont pas exposées directement au soleil. Et je comprends pas. Tu vois. Et bon, c'est dans une pièce lumineuse mais voilà, je sais pas si c'est juste le temps ou enfin variation de température, enfin je sais pas. Pareil, j'avais à l'époque aussi alors avant d'avoir les Hot Toys, à l'époque j'avais des Sideshow parce que Hot Toys n'avait pas la licence. Mais les premières figurines Sideshow, j'en avais quelques-unes des Jedi et qui ont des purs en tissu. Et dans mon ancien appartement, je pouvais que les stocker. En gros, il y avait une fenêtre sur un côté. Et bien sur tout ce côté exposé, toutes les bures, elles ont changé de couleur. Donc c'est du tissu, c'est pas du plastique. Donc même le tissu décolore au soleil, quoi. C'est assez dingue. Et j'ai aussi j'ai un Faucon Millenium Lego qui est pas loin d'une fenêtre dans mon appartement. Et ben je vois aussi que là qu'il y a les pièces qui commencent un peu à changer de couleur, quoi. Donc c'est pas grave pour le coup. Franchement c'est le gris qui jaunit un chouïa. Vraiment c'est vraiment pas grave. Mais voilà, il y a vraiment tout qui change de couleur au soleil. Et la plus grosse catastrophe de ma vie de collectionneur, c'est ma toute première dédicace d'Harrison Ford que j'avais exposée, même pas au soleil forcément, mais je l'avais exposée dans un beau cadre avec une belle Marie-Louise, mais j'avais pas mis de vitre anti-UV et anti-reflet. Et je me suis rendu compte sur le tard, parce que quand je la vois tous les jours, je la vois pas changer. Et je me suis rendu compte sur le tard en fait que la signature avait littéralement changé de couleur. Elle était passée de bleu pétant à grise. Et ça, c'est à cause du soleil. Voilà. Et je m'en mords les doigts, mais vous savez pas à quel point de ça. Je m'en mords littéralement les doigts. Alors, heureusement, depuis, j'ai eu une dizaine d'autographes d'Harrison Ford. Donc, voilà, c'est pas la cata non plus pour ma collection personnelle, mais je m'en veux tellement pour ça, et que je me dis que si j'ai l'occasion de le recroiser, je vais réimprimer cette photo, la refaire signer pour l'avoir bien, quoi. Et je revendrai l'ancienne, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui est autographe, c'est systématiquement maintenant dans un classeur. J'en ai qu'une originale qui est exposée, c'est celle que ma femme m'a offerte pour nos cadeaux de fiançailles. Parce que c'est sur une grosse photo dans un grand cadre, donc j'ai mis dans un cadre avec cette fois-ci la vitre anti-UV, et dans un couloir, c'est face à un autre mur, donc c'est pas exposé au soleil. Et aussi, la couleur des autographes, ça, c'est très important parce que celle qui a changé de couleur, elle était en bleu. Et le bleu, c'est la pire couleur pour le soleil. C'est celle qui, ce qu'on appelle ça, ça fade. Donc c'est celle qui fade le plus facilement. Le noir, ça tient beaucoup plus au soleil, mais faut pas non plus jouer avec le diable. Et voilà. Et celle que j'ai exposée originale, elle est en doré. Donc normalement, le doré, ça tient, comme l'argenté, ça tient plus avec le temps. Voilà. Et aujourd'hui, si je veux exposer d'autres dédicaces, je les scanne et je les mets dans des cadres. Mais les originaux sont dans les classeurs et ce sont les scans qui y sont exposés. Donc voilà, c'est comme je disais pour les figurines, c'est que voilà, je sais que l'original elle est stockée, elle est en sécurité quelque part, et visuellement, je peux quand même en profiter en l'exposant. Voilà.
Ouais. Moi, là, comme tu disais là dans les problèmes de stockage, moi le pire truc qui m'est arrivé, c'est j'avais deux. Alors c'est pas des frigos, c'est des bacs à glaçons assez volumineux, quand ils font la tête derrière 2D2. Tu mets des glaçons dedans, tu mets tes boissons et par le dôme il y a une trappe où tu peux prendre des boissons. Donc il y a le R2D2 qui est en plastique tout autour avec les pieds et tout, et en fait j'avais laissé stocker dans mon grenier. Donc je regardais régulièrement, j'ai vu que tout le plastique était bien, qu'il n'avait pas jauni, toutes ces choses-là, t'es tranquille et tout. Et un jour, je vais pour déplacer quelque chose, je vais les sortir puis les mettre dehors. Et en fait en les prenant, je me suis rendu compte que tout le plastique était devenu très cassant. Et en fait, c'est tombé pratiquement en poussière. Les quatre pieds, donc c'est-à-dire les deux pieds par frigo, sont tombés.
Ouais.
Alors j'étais dégoûté, triste comme tout. Et d'une fragilité, mais le plastique était devenu, ne serait-ce que le toucher, le fracasser tout de suite, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est mon plus mauvais souvenir. Pour dire que c'est mon plus mauvais souvenir, c'est que je les ai donnés plutôt que les voir périr. Voilà, devant moi. Voilà. Parce que j'arrivais pas à vivre ou à aimer ou à supporter ça, quoi.
Voilà. Bah, tu vois, c'est comme ma dédicace d'Harrison Ford là, c'est que le jour où je peux. En fait, la voir, ça me fait mal au cœur.
Ça
me prend au trip, ça me fait vraiment mal au cœur. Et du coup, je pense qu'un jour, je la revendrai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et je la rendrai moins cher que ce qu'elle valait quand elle n'était pas abîmée, hein, mais à qui ça fera plaisir. Et voilà, mais ça je le ferai que quand je l'aurai refait signer, si un jour je peux le faire. Parce que en ce moment, les promotions d'acteurs en France, c'est un peu le point mort avec cette histoire de coronavirus.
Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Et puis comme tu disais, là, on parle des autographes, mais comme tu dis, il y a des outils qui permettent maintenant de protéger, comme tu disais, grâce à une vitre entre spéciale UV, entre tous ces choses-là qui permettent de pouvoir protéger, alors qu'à notre époque, ces produits n'étaient pas accessibles. Ça a l'air bête ce que je veux dire, mais il y a 30 ans en arrière, c'était hier pour moi, on n'avait pas ce genre de choses. Comme pour les jouets, on n'avait pas de protect-crest ou d'acrylic case qui permettait de protéger les produits contre les UV. On voyait ça dans les magazines, c'était hors de prix.
Oui, c'est aussi, moi je déballe tout, mais enfin je déballe pas tout, mais les blisters qui jaunissent aussi, ça c'est fatal. Hein. Les bulles qui jaunissent dans un blister, ça c'est
fatal. Ben moi, ouais. tous mes blisters sont dans des protect case et tout ce qui est vintage est dans acrylic case. Alors protect case, c'est des boîtes en plastique qu'on clipse, d'accord. Ouais. Et acrylic case, c'est des boîtes rigides en fait.
Les boîtes rigides. Est-ce que ça protège du soleil ou pas?
Ouais, c'est quand même efficace. Bah, ouais, c'est efficace bien. Dans le sens que ça joue bien son rôle si tu prends des vrais qui sont bien anti-UV. Voilà. Voilà. Mais en fait, je ne pense pas que le problème soit réellement l'UV. Hein. Je pense que l'UV contribue à accélérer le système. Tu vois?
Mais tu vois, moi j'ai aussi. J'ai des figurines, c'est sorti en 2005 environ. Ça s'appelait c'était les premières figurines Hasbro 10 cm Vintage Collection. Alors ça s'appelait Vintage Original Trilogy Collection. C'était les VOTC.
Les
VOTC qui sont encore aujourd'hui parmi les plus belles figurines qu'Hasbro ait jamais fait à cette échelle. Elles étaient vendues déjà dans des Protect Case.
Tout à fait.
Et moi je les ai jamais exposées au soleil, elles sont même dans un placard.
Oui.
Mais vraiment, elles sont dans un placard. Mmh. Et autant sur le côté avec la figurine nickel, hein, ça n'a pas bougé.
Ouais.
Mais quand je retourne de l'autre côté, à l'arrière du blister, j'ai l'impression que les couleurs commencent à ternir. P- Pourtant, ça n'a jamais été exposé au soleil.
Ouais,
ça n'est jamais sorti de sa Protect Case.
C'est les critères d'impression n'étaient pas les mêmes il y a quelques années maintenant. Avant, tu étais obligé d'imprimer à fort dosage pour faire de la couleur. Maintenant, un nuage de couleur permet de sortir des éclats ou de la pureté qui n'étaient pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment de la pression en tant que telle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs passages de couleurs, toutes ces choses-là, c'était des imprimeurs qui faisaient les cartons, si tu veux. Ouais.
Mais tu vois, c'est maintenant, bizarre parce que le recto est nickel, le verso n'est pas nickel.
Ouais. Et c'est vrai que les VOTC, là, comme tu dis, c'est le problème qu'ils ont eu sur beaucoup de produits, ouais, aussi, derrière.
Ouais. Donc, ouais, c'est que des fois, voilà, même quand on fait attention au soleil, les changements de couleurs, ça, je pense que ça fait partie de la vie de la collection. Hein,
ouais, c'est ça. Puis, comme on dit, on peut pas être non plus à 100% sûr de préserver les choses. C'est comme Michel Chevelot, qui collectionne des affiches, lui, il en parle souvent. Il dit que ses produits, pour qu'ils soient conservés dans le temps, il fait ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire qu'il les entoile pour pouvoir les protéger et les conserver. C'est-à-dire qu'il y a vraiment derrière une démarche. C'est comme nous, quand on a un produit, quand j'ai des belles cartes, moi, c'est dans des boîtes acryliques qui sont dans des plastiques, qui sont encore dans des boîtes et dans des cartons, qui sont protégés dans un lieu où il n'y a pas de variation climatique. Voilà. Mmh. Où la température oscille pas beaucoup. Voilà. Mais après, c'est la dépression, quoi, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre six en considération que, déjà, il n'est pas évident de choisir ce qu'on doit montrer. C'est pas évident de choisir dans est-ce qu'on va plus dans une gamme ou dans telle chose, mais il faut aussi s'accorder que on peut avoir des pertes liées au temps et déformation du produit, quoi. C'est un produit vivant, quoi.
Après, voilà, si maintenant j'achète, moi aujourd'hui j'achète des figurines et je me dis que psychologiquement, je sais que ça va s'abîmer peut-être avec le temps, mais c'est comme ça et j'ai pas le choix et on le vit mieux du coup.
Ouais, c'est ce que je veux dire, moi je les ai vus mes figurines vieillir, donc l'approche est différente, c'est que je peux en parler collection de cause, c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que mais ça fait partie de la vie, dire que moi je me regarde, c'est ce que je disais, là, je plaisantais avant-hier avec, en confinement avec ma voisine à 2 mètres là que l'autre à boire des bières, je disais, mais j'ai les mains qui commencent à venir toutes ridées et tout, et là je me suis rendu compte qu'en fait, comme tout autour de moi, en fait, moi j'ai pas l'impression de vieillir ou de muser, mais c'est les choses en même temps que moi, et c'est vrai que les produits ont évolué. La collection, c'est plus la même. On discutait là sur le forum, il y a ça juste avant l'émission avec d'autres collectionneurs, et on disait qu'on va plus acheter des produits pour exposer que des produits avant pour posséder. Voilà. C'est-à-dire que la réflexion, c'est plus si j'achète ça, c'est pour l'exposer plutôt que pour le collectionner. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi un changement de mentalité. Certains ont été complimentés de vouloir chercher à faire beaucoup pour valider les collections en achetant tous les blisters, et puis certains disent non, je préfère acheter une pièce plus ou moins chère, c'est pas histoire de coût, mais je prends cette pièce pour l'exposer, à contrario de faire des pièces que je vais garder dans des cartons. Et comme on disait dans l'échange qu'on avait eu avec Michel de chez Choupa Choup, industrie de la corde à guitare, il évoquait ça, il disait que les pièces qui n'exposent plus, c'est des pièces à vendre. Il partait de ce principe là Il dit, si je n'expose plus mes pièces, c'est qu'elles sont bonnes à vendre. Après, c'est choix à prendre ses considérations.
Bah, moi, c'était un peu ça avec des autographes. Enfin, tu vois, moi, je me dis aujourd'hui, je vais avoir un enfant. J'ai plein de pièces qui ont un peu déprécié dans mon cœur. Et je me dis que voilà, si tu veux acheter des nouvelles pièces, eh ben, tu ne sors plus d'argent. Donc, si tu veux t'acheter de nouvelles choses, tu vends des trucs que tu aimes moins pour pouvoir acheter autre chose, mais plus sortir d'argent du compte en banque pour acheter des nouvelles pièces, quoi. Et ça permet de faire un peu tourner la collection, et voilà, si il y a une pièce qu'on aime moins maintenant pour des raisons x ou y, ça sert à rien de la garder forcément, quoi. Si on peut, ça nous permet de financer d'autres pièces dont on a envie. Et donc ça permet d'acquérir des nouvelles pièces sans que ça prenne plus de place.
Ouais. Bon, je regardais là sur certains qui me présentaient leur collection et leur disaient qu'avant c'était un peu plus boulimique qu'autre chose. C'était l'envie de posséder qui correspondait à un moment de vie dans leur carrière. Et que maintenant ils sont plus à réfléchir sur est-ce qu'il faut que j'enlève... de faire le choix d'enlever pour mieux représenter ou mieux présenter ce qu'ils ont, en fait. Ouais. En fait, c'est pour faire sortir. Alors, moi, ma femme, ce que me reprochait mon épouse dans les vitrines, c'est qu'il y en avait trop. Alors je disais, mais lesquelles je mets aussi? Qu'est-ce qui fait que celle-ci doit mériter une vitrine et pas l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'était les choix un peu compliqués qu'on avait au quotidien. Donc, on enlevait les vitrines déjà pour reprendre un style à la maison. Et là encore, il y a des pièces que je voudrais exposer, d'autres que je présente, où je me dis, est-ce que je mettrais plus celle-ci ou une autre ou... Et en fait, la problématique, c'est que prendre une pièce, c'est faire la démarche d'aller dans le grenier, sortir le carton, sortir la pièce, de prendre le risque de la casser, de perdre un élément, de ne pas faire les bonnes choses. De la ramener, quand tu dis après de l'entretenir, on en parlera dans l'entretien des collections, de faire un faux geste ou un faux mouvement et de casser une petite antenne. Ça a l'air de rien, une petite antenne, mais une petite antenne, quand elle est cassée. La statue n'est plus une statue pour moi. Elle est cassée, c'est plus pareil.
Ouais, voilà. C'est ça. Moi, quand je sais que c'est cassé psychologiquement, j'aime plus. Enfin, c'est ça. Hein, c'est... Même si visuellement ça se voit pas, bah, je le sais. Et en fait, je le sais qu'elle est cassée. Je sais qu'il y a un point de colle quelque part. Et du coup, ça va me gâcher la pièce.
Non, puis moi, quand j'expose une pièce cassée, oh, je me dis, ah, celle-ci, elle est cassée en plus. Alors je me dis, mais ça se voit pas. Si, moi, je le sais, là, c'est
cassé. Ouais,
ça se voit pas.
Il suffit de le savoir. Et puis,
ouais, moi, je le sais.
Ça suffit pour, qu'on ait, voilà, pour détériorer la pièce dans son esprit, quoi. Et là, je suis exactement comme toi.
Ouais, sachant qu'en plus, les pièces qui sont abîmées dans le nettoyage, j'ai des gens qui sont vraiment compétents dans ce domaine, ils te remettent ça à l'identique, tu ne le vois pas. Franchement, ils ont une qualité de travail qui est incroyable, mais moi, je le sais.
Je dis, je le sais, et c'est plus fragile, du coup.
Ouais. Et puis même en le sachant, tu regardes plus la pièce de la même façon. Parce que je pense de l'avoir cassé, c'est montrer l'âme de la pièce à l'intérieur, comme je disais la dernière fois, bêtement. Mais c'est le voir à l'intérieur. Et j'ai pas envie de voir l'intérieur de ma pièce. J'ai envie de la voir d'extérieur, quoi. L'objet, le produit, toutes ces choses-là.
Ouais.
Et on va finir en thérapie, hein, je crois là. Comme c'est parti.
Bah oui, il faudrait. Et après, tu parlais aussi de rouvrir aussi des pièces dans son grenier, mais il y a un côté sympathique aussi des fois, parce que moi, des fois, ça me permet de revoir des pièces. Tu vois, je me dis, voilà, tiens, cette pièce, je l'ai rangée, alors pourquoi je l'ai rangée déjà et tout. Et puis après, je la re-regarde, donc du coup, je reprends du plaisir à la redécouvrir. Et c'est pas pour ça après que je vais la mettre à la réexposer, mais... Bah, ça me permet de redécouvrir une partie de ma collection et voilà, donc ça fait pendant 10 minutes je suis content quoi, et puis après voilà, je repars à mon rangement quoi.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est la redécouverte de pièces a lieu dans 3 événements: le confinement, tu sais pas quoi faire donc tu y retournes, d'accord, le divorce parce qu'il faut que tu récupères tes pièces et tu remballes tes pièces, donc voilà, et le réaménagement où tu redécouvres les pièces que tu as mis dans des cartons. Voilà, alors je souhaite à personne de vivre les 3 en même temps. D'accord.
Non, moi il y en a que 2 qui sont bien, mais
ouais, les 2 sont bien, la 3e laisse-le pour les autres. D'accord.
C'est la 2e qui est pas top.
Non, la 2e est pas top. Et non. Je vous le souhaite absolument pas. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est comme je dis, ce qui est comique pour moi, c'est cette course au Graal, quoi. C'est de te rendre compte que j'avais ça. Je m'en souviens. Ah ouais, j'adore ça. Ouais.
Non, mais ça c'est, enfin, moi j'adore. C'est, je suis pas, moi je suis quelqu'un de très nostalgique dans l'âme, donc du coup, je pourrais passer des journées à re-regarder mes pièces. Et puis, pour avoir visité le Rancho Obi-Wan, je me dis que le rêve, ce serait d'avoir ça pour soi, quoi. C'est d'avoir son propre Rancho Obi-Wan, quoi.
Et là, il faut une thérapie longue, là.
Ouais, et avoir son propre Rancho Obi-Wan. Et j'y passerai ma vie, comme au Rancho Obi-Wan.
Alors, je vais te dire une chose. On en reparlera quand tu auras ton enfant, d'accord? Donc, on note la date. On en reparlera dans 2-3 ans. On sera toujours là en train de raconter nos thérapies, nos théories et nos résultats de thérapie. Et tu verras que le changement va être complètement différent, je pense aussi. Voilà. Mais voilà que je ne critique pas ce que font les collectionneurs. Là, il y a Gus Lopez en ce moment qui présente sa maison, ce qui est en confinement, toutes ses pièces. Là.
Alors, Gus Lopez, on va, pour les gens qui ne savent pas qui c'est un des plus grands collectionneurs au monde. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui possède la vraie maquette de la première étoile noire dans son salon, quoi. Qu'il a acheté ça dans une boutique à débarras pour 10 dollars, quoi.
Voilà. Il a aussi les moules des R2-D2 Proto, d'accord, qui ont servi à tout ce qui était préparation du tournage. Et toutes les pièces originales de R2, il les a. Voilà. En autre, parmi tous ces choses-là.
Moi, je connais quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, mais qui a le vrai R2-D2 de l'Empire Contre-Attaque, tu vois, chez lui.
Un des cinq.
Et eh ben il a un des cinq chez lui. Je l'ai porté.
Eh ben je sais qui c'est.
Ouais.
Non mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça.
Non,
mais c'est vrai que faut remettre ça dans un contexte d'époque aussi, je pense. Là, ce que tu viens de dire, c'est que à l'époque il n'y avait pas de volonté de collectionner les trucs du cinéma, quoi, à cette époque-là, qu'on avait pu avoir ces produits. C'était pas culturel. Maintenant, c'est devenu du placement d'argent, c'est devenu, quand tu vois Prop Store qui fait des ventes en régulière avec leur catalogue pour vendre des produits du cinéma, l'approche est complètement différente par rapport à l'époque où ils étaient, je pense aussi. Voilà.
Ouais. Et bah, tu vois, tu parles de, aussi de la valeur des, de la collection, mais tu vois, pas plus tard qu'avant-hier, bah, y a ma femme qui me disait, il faudrait que tu me dises, tu m'écrives noir sur blanc sur un papier, au cas où tu meurs, qu'est-ce que je fais de ta collection ? Parce que j'ai aucune notion de qu'est-ce qui vaut tel, qu'est-ce qui vaut, voilà, de la valeur de telle et telle pièce. Alors après, qu'est-ce que tu veux que moi je garde aussi et tout. Enfin voilà, donc je lui ai dit, par exemple, tu vois, mes dédicaces, tout ce qui est dédicaces, tu le gardes pour toi parce que ça a de la valeur. Et puis après, pour l'enfant, enfin, faut penser à lui plus tard. Donc s'il a besoin d'argent, ben, à ce moment-là, on peut revendre des trucs et tout. Mais voilà, il y a cette vraie question de est-ce que plus tard, ben, quand on sera plus là, faire en sorte que ça puisse subvenir aux besoins de notre famille en revendant quelques pièces, et quelles pièces on aimerait que la famille garde, quelles pièces on aimerait que ça aille à tel ami ou tel ami, enfin voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que plus tard, si mes enfants sont fans, ben, je veux que ça leur revienne intégralement. Si mes enfants sont pas du tout fans, j'ai envie que ça reste dans les mains de collectionneurs, de gens qui sont passionnés, quoi.
Tout à fait. Moi, c'est le discours à peu près dans la même optique, mais différent en même temps. La même optique, c'est-à-dire que j'en ai parlé avec mes enfants, toutes ces choses-là, ou avec mon épouse. La collection, c'est pour moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je veux que ça soit un fardeau pour la famille. C'est-à-dire que le jour où il m'arrive quelque chose, j'ai listé une grosse partie de toute la collection, et ça part tout en don. C'est-à-dire que j'ai deux gros collectionneurs que je connais qui n'écoutent pas l'émission, donc je peux leur dire, je donnerai le nom, parce que mon pote Lionel, par exemple, si un jour il doit disparaître, je sais que c'est un mec passionné et minutieux, donc je préfère qu'elle parte dans une collection, tu vois, plutôt qu'elle disparaisse. Sachant que, comme je disais, c'est que je n'ai pas fait ça pour apporter un PQ financier à mes enfants. Voilà.
C'est-à-dire que, moi non plus, hein, mais c'est.
Voilà, mais dans
si
les,
jamais
dans
ça peut servir ouais, à ça.
Si jamais
tard,
ça arrive, voilà. Si ça peut les aider, oui. Alors, les pièces les plus rares, ils le savent, parce que j'ai un carton avec une vingtaine de blisters dans des écrits de caisse. Et dedans, il y a tous les cotes des Prop Store et compagnie, de tout ce que j'ai fait pour pouvoir, au cas où, les vendre. Ouais. Il y a mon fils qui regarde de la tête, qui fait oui. Non, je te les donnerai pas pour l'instant, faut que je crève avant. Non. Il me regarde tout de suite, dit oui, moi je veux. Non, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut envisager. Comment ?
Qu'il soit pas pressé.
Ouais, ce que je lui ai dit, oui. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération, et tu as raison, parce que on veut pas que ça arrive, mais ça peut arriver toujours trop vite. Et c'est un souci au moins à enlever à quelqu'un qui, en plus de perdre son conjoint, doit en plus se payer de vendre quelque chose qui le rappelle et qu'elle sait pas quoi en faire exactement.
Voilà. Ouais.
Voilà, c'est un peu gênant.
Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'entretien de la collection. On a déjà fait le chapitre du soleil. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu le chapitre de la poussière. Attends, c'est une émission de ménage, quoi. C'est dingue. Mais voilà, donc parce que voilà, quand on n'a pas de vitrine, justement, bah, la poussière, ça devient très très rapidement l'ennemi numéro 1. Toi, tu fais souvent la poussière ou pas, Raphaël, chez toi, sur tes pièces?
Là, c'est un. Je fais ma poussière sur certaines pièces et pas d'autres. Ça peut paraître bizarre. Je regarde autour de moi. Bah, justement, je me posais la question quand je faisais la poussière. Mon fils me montre le sol que je fais la poussière. Par exemple, j'ai des têtes à l'échelle 1-1 faites par des qu'on appelle ça. Je cherche la terminologie, je vais pas retrouver. Des gens qui font des répliques, voilà. Donc j'ai des répliques de C3PO, de Dark Vador, très belles répliques hein, de leur tête et de leur. Et ça me dérange pas de laisser la poussière. Mais par exemple, pour Dubak, j'aime pas qu'il y ait de la poussière avec son Stormtrooper dessus. Ouais. Par exemple, j'ai mon Atacus bronze de Londres, je crois, ou non, de l'Allemagne, le Cody, j'aime pas qu'il y ait de la poussière dessus. Alors que d'autres, ça me dérange pas, je trouve que la patine leur va bien. Voilà. Alors c'est pas de la patine de crasse non plus, attendez, on est bien d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est un charme aussi vieillissant qui va bien avec la statue. J'avoue que quand même, je fais quand même le fois que j'enlève, que j'ai des poussières régulièrement avec un truc Freebase, un truc comme ça que j'ai acheté lors d'une liquidation dans un magasin pour faire le bonnage et la poussière dans les radiateurs dans les voitures. Et en fait, ce que j'utilise le plus souvent, en fait, c'est du matériel d'entretien de voiture à sec. Voilà. Il y a des gens qui rénovent le plastique, toutes ces choses-là. Alors la difficulté de faire ça, c'est qu'il faut bien doser, parce que c'est soit tu mets trop et ça gras, ça devient, la pièce devient grasse, et la poussière se colle dessus, ou soit si tu fais avec un chiffon humidifié, comme une lingette, l'avantage c'est que ça s'évapore relativement vite. Donc j'ai opté pour les lingettes en fait, pour nettoyer tout ce qui est casque et toutes ces choses-là. Et puis pour des autres, c'est régulièrement où je fais la poussière. Après, le problème de la poussière, c'est, voilà, c'est le risque de casser une pièce.
Voilà. Bah tu vois, moi la poussière, enfin moi j'arrive, enfin chez moi j'ai l'impression que la poussière, si je la fais demain, il y en a replein, et je la fais pas autant que je devrais la faire, la poussière, clairement. Après voilà, faut vraiment que ça commence à m'agacer sur une pièce pour me dire non mais là faut que tu fasses quelque chose. Après je trouve que par exemple il y a des pièces qui sont beaucoup plus faciles à dépoussiérer que d'autres. Par exemple tout ce qui est figurine Hasbro en plastique, ça enfin au niveau de la poussière c'est très très facile à enlever. Mais après moi c'est posé sur mes Hot Toys, parce que sur mes Hot Toys il y a autant les personnages en armure comme les Stormtroopers, là bon, la question se pose pas, mais pour les personnages en tissu qui ont des éléments en tissu comme Dark Vador, Han Solo, Kylo Ren, et ben là le chiffon anti-poussière ça suffit pas, parce qu'il y a de la poussière qui reste incrustée dans des petits détails et où le chiffon va pas. Et là j'ai trouvé le truc maintenant pour les nettoyer, c'est un pinceau que j'utilisais pour peindre mes murs. Et ben j'utilise ça, je passe vraiment au pinceau sec, donc bien sûr pas mouillé, le pinceau sec, toutes mes Hot Toys, et du coup il y a toutes les poussières incrustées dans les petits détails, dans les petits replis et tout qui s'en vont. Et pareil sur le tissu, le pinceau ça marche assez bien quoi. Mais par contre sur les capes, les grands parties amples de en tissu, là c'est un peu plus compliqué. Mais pour tout ce qui est petits détails et tout, recoins, le pinceau c'est vraiment l'idéal. Et ça a fait ressortir une pièce, vous n'avez pas idée qu'on utilise ça quoi. Donc ça c'est mon truc, ouais, le pinceau.
Ah, il faut savoir que là ce que tu viens de dire dans les pinceaux...
Les Lego aussi, pour les Lego, ouais. Le pinceau ouais. C'est parfait.
Alors j'ai des pinceaux de photographe en fait, c'est des pinceaux... avec tu peux pousser de l'air derrière. En fait, okay. C'est comme une poire avec le pinceau au bout, et en fait, ça souffle en même temps que tu nettoies. Voilà. Ah, c'est pour les objectifs d'appareil, c'est pour nettoyer. Donc j'utilise ça aussi, c'est quand même pratique. Mais après, c'est ce que je disais quoi. Comme disaient mes enfants ou ma femme, quand elle me voit en train de dépoussiérer mes figurines, elle me dit je passerai le même temps à faire le ménage à la maison, je serai heureuse quoi. Voilà.
Eh ben, on est la même personne avec nous.
Ah bah d'accord. Non mais
aujourd'hui là j'ai plus besoin d'endroits où je peux exposer que de pièces à mettre quoi, parce que
oui mais c'est la même difficulté. Moi mon beau-père m'a dit ce serait peut-être temps que je libère le grenier chez eux quoi, voilà, gentiment quoi, parce que j'ai pris tout le grenier quoi, le grenier il fait 80 mètres carrés au sol, j'ai tout pris le grenier quoi. Et comme il dit que c'était marrant au début, mais là qu'il est à la retraite depuis 5 ans, il devrait bien prendre son grenier aussi quoi, voilà quoi.
Ouais, c'est même donc, des fois, moi j'ai des marques qui m'envoient des produits pour faire des unboxings, des choses comme ça. Mmh. Et ben, avant je gardais tout pour moi, ben maintenant non quoi, maintenant je donne à des gens et tout, parce que ben je dis, ouais, c'est pas une pièce que j'aurais acheté de moi-même, donc voilà, je fais la vidéo unboxing parce qu'il faut la faire, mais après, ouais, je préfère la donner à quelqu'un qui ça fera plaisir plutôt que de stocker une pièce que j'aurais pas forcément acheté chez moi quoi.
Là, c'est peut-être ça la maturité aussi, ouais. Peut-être.
L'âge de la raison.
Non, je ne suis pas l'âge de la raison, c'est que, c'est comme je disais, on a quand même de la chance, on est un peu privilégié, que ce soit toi ou moi, ou dans différents collectionneurs ou forums, on a la chance de rencontrer des gens, discuter avec des gens, c'est quand même une facilité qu'on a que d'autres n'ont pas. Rencontrer des gens, comme tu disais, qui possèdent l'un des 5 R2-D2, la possibilité de rencontrer des gens comme Gus Lopez ou des choses comme ça, pas permis à tout le monde, même si nous, c'est catimini, quoi. Je veux dire, quand on les voit, c'est vraiment à petite échelle. Mais on a la possibilité de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir protéger, de pouvoir savoir comment faire. Donc c'est vrai que des fois, ça ne nous dérange pas d'offrir, en fait, si tu veux.
Oui, voilà.
Parce que d'autres ne comprendraient pas. Voilà.
Et après, tu vois, c'est pareil, tu vois, quand je dis... je vais revendre des autographes et tout, ben, les gens à qui je revends, je sais que c'est des gens qui vont en prendre soin. Donc du coup, je sais que je laisse pas à l'abandon, entre guillemets, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Je sais que je fais plaisir à quelqu'un qui va prendre autant de plaisir à l'avoir que moi quand je l'avais à l'époque. Quoi.
Ouais, c'est ça, si. Je pense que c'est une vision qui paraît normal, je pense, avec le temps. Et puis aussi, quand tu disais, à un moment ou à un autre, il faut qu'on fasse stop aussi sur certains produits. C'est clair que des fois, on reçoit des produits, c'est très gentil, très agréable. Sortez à 10 ans en arrière, j'aurais été en larmes devant les produits qu'on m'offre, alors que maintenant, tu vois, je préfère l'offrir à quelqu'un que ça fasse plaisir, tu vois, créer un lien, tu vois, plutôt que, comme je l'étais, hein, je l'avoue, comme j'étais un peu égoïste et garder tout pour moi, c'était à l'époque où, quand tu gardais la formation, tu étais le meilleur. Et au fil du temps, j'ai appris que diffuser l'information, c'est ce qui te rendait plus fort dans l'esprit. Bah, c'est pareil dans la collection. C'est tout garder pour toi, ça a bien un moment, mais le partager et le diffuser avec d'autres personnes, bah, c'est aussi ça la valeur ajoutée, plus que dire « j'ai la plus grosse », entre guillemets. Il faut bien avoir la plus petite, mais la montrer à tout le monde qu'une grosse qu'on cache. Voilà.
Ouais. Bah, tu vois, c'est comme par exemple, tu parles des informations, c'est vrai, bah, tu vois, pour le monde des autographes, c'est légèrement pareil. Enfin, tu peux pas le dire à tout le monde et tout. Par exemple, Harrison Ford est à tel hôtel, tu peux pas le crier sur tous les toits. Mais moi, à chaque fois, je dis à 2-3 amis. Et du coup, bah, tu vois, par exemple, il était venu en 2013 et je l'avais dit à toute la team Mighty Box qui était venue sur Paris pour faire ça. Et du coup, tu vois, les autographes que j'ai eus à ce moment-là, ben, ils sont liés à ce souvenir où ben, on était tous ensemble à attendre et tout. On a bien discuté entre nous, on a passé des bons moments ensemble. Donc du coup, ces autographes, ils sont liés à un super souvenir humain qu'il y a derrière, quoi, tu vois. Et alors que si j'avais gardé l'info pour moi et que je suis resté tout seul de 3 jours devant un hôtel, ben ça aurait pas été la même chose.
Ouais, je pense que tu vois, dans la collection ou dans derrière ce qu'on disait, ce qu'on aimait présenter ou ce qu'on aimait exposer ou toutes ces choses-là, après on parlera de la façon dont on peut gérer une collection. Je pense que derrière certaines pièces, comme je dis, c'est l'histoire qui est intéressante plus que la pièce en elle-même, quoi. Voilà, quoi. Et c'est des choses intéressantes. Moi, je fais que mon Dubac. Pour moi, c'est pas la pièce la plus prestigieuse ou la plus onéreuse, j'ai loin de là, mais cette pièce-là, elle a vraiment une histoire. C'est un pote qui me l'a offert, qui avait un magasin qui s'appelait Jawa Store à l'époque, qui était un magasin exceptionnel.
Je leur ai acheté des trucs à Jawa Store à l'époque.
Ouais, qui était, c'est un des premiers vendeurs qui était à QC à l'époque, qui vendait des produits incroyables, de collection et super propre. Et c'est un cadeau qu'il m'a offert, et depuis, c'était vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, quoi. Voilà, quoi.
On parlait de la gestion de la collection. Est-ce que toi, tu fais un inventaire de toutes tes pièces ou pas du tout?
Alors, ouais. Par exemple, tout ce qui est Astromech, oui. Astromech, j'ai un tableur Excel qui est couplé avec des photos que j'ai récupérées sur différents forums où chaque R2 est catalogué parce qu'en fait, il y en a tellement qui sortent que c'est pour me donner après où je me situe dans la collection parce que je disais la dernière fois, j'ai acheté 4 fois le même blister. Parce que sur un an d'activité, tu sais plus ce que t'as acheté, ou c'est sûr que tu cherches et que tu sais plus que tu l'as acheté, donc tu le recommandes. Et comme j'avais fait un peu d'en commander deux, un pour blister et un pour déblister, bah à la fin je me retrouvais avec plusieurs. Donc depuis, j'ai pris cette démarche de photographier chaque blister, d'avoir derrière des belles photos de forums ou de sites qui référencent ces choses comme ça, et d'en garder un double qui est assez accessible assez rapidement sur mon PC. Parce que j'arrivais à des choses complètement folles, ou voilà quoi. Ou j'achetais des R2-D2 en loose que j'avais déjà, quoi.
Voilà. Ouais. Ben, moi, pas du tout. Je sais que je devrais le faire, mais j'ai jamais inventorié rien du tout dans ma collection. Et si bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien j'ai de pièces. Mais en gros, comme ça, je sais pas, je dirais j'ai au moins 2000 pièces. Tout confondu, hein. Au moins 2000. Mais ça tombe, c'est 6000, tu vois, j'en sais rien en fait. Parce que j'ai jamais fait ça. Et je sais pas si je le ferai un jour en fait.
Moi je sais que la surface que ça prend au sol, parce que c'est dans le grenier de mes grands-parents, de mon beau-père, ça représente quand même énormément de pièces, sachant que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup que j'ai vendu, quand même, assez énormément quand même. Pour une question de stock, hein, tout simplement. Hein, parce que stocker pour stocker, ça vient un moment. Et puis. Le marché n'était pas exceptionnellement à la hausse, donc ça m'a permis de vendre correctement, quoi, sans vouloir être celui à qui voulait s'enrichir. Je ne me suis pas enrichi, hein. J'ai juste remboursé ce que j'avais consommé à l'époque. Hein. Je n'ai pas gagné plus ou moins, quoi. On s'y retrouve, l'équilibre se fait, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que tenir ne serait-ce qu'un cahier de ce qu'on a ou ce qu'on possède est quand même assez intéressant dans le sens où à tout moment, comme on l'évoquait, il y a problème de vie, choses comme ça, permet à une personne de pouvoir savoir où t'en es, d'accord. Et quand tu disais tout à l'heure, moi j'ai fait que pour mes R2-D2, par exemple, où tout est catalogué, référencé et compagnie, il y a une valeur d'une cote à côté, d'accord. La valeur estimée et la vendeur où ça peut être vendu, donc c'est un peu moins cher, voilà, et en disant que ce qu'ils gagneront sera juste du bénéfice, mais ils ne feront pas 10 milliards avec, quoi, voilà. Donc à la limite, il faut mieux le donner à quelqu'un qui ça fait ce plaisir, et puis voilà, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que je pousse souvent les gens à, je pousse les gens à faire de l'inventaire. Ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai mis un post sur notre forum où il disait comment vous organisez-vous pour collectionner vos, pour faire le lien, pour contrôler tout, et pas beaucoup de réponses. Et je pense que les gens n'ont pas fait cette démarche un jour de lister. Si, il y a un qui a listé. Là, je crois que c'est un problème existentiel, parce que là, c'est une thérapie de fond qu'on peut mettre. Ah, je balancerai pas son nom, parce que comme il est pris dans le Mythilbox, qui s'appelle Pierre, j'ai peur qu'il sache que c'est lui que je parle. Mais Pierre, lui...
Il y a plusieurs Pierres, donc ça va.
Il y a plusieurs Pierres. Pierre, je crois que lui a répertorié tous les DVD qu'il a sur Star Wars. Je crois bien. Et je crois que l'autre Pierre a fait la même chose pour ses autographes.
Ah oui, donc oui, c'est, oui, ouais, voilà, c'est les deux Pierres.
Je
pensais que c'est l'autre qui, avec ses autographes, mais non, c'est...
Ah non, 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 ah, tu vois.
La voilà. Pierre autographe, c'est vrai, et il y a Pierre DVD. Ouais. Mais je vois ouais. très bien... Qui ouais. est qui.
Et je pense qui est qui, mais je crois bien que tous les deux ont dû faire ça.
Mais je voilà. te confirme que Pierre a bien fait ça pour ses autographes. Voilà.
Ouais, est-ce bon, que je connais le logiciel qu'il utilisait
les trucs privés et tout.
Non, non, mais il avait pris cette démarche-là, ce qui était assez intéressant. Tu penses aussi de pouvoir. Au moins, il y a une visibilité assez rapide, quoi. S'il va acheter une pièce ou une chose comme ça, il sait où l'on est, il sait ce qu'il a. S'il peut faire des échanges, il sait quelles sont les pièces qu'il a. Donc, c'est intéressant. Voilà.
Bah, tu vois, moi, j'ai tout en tête. C'est bête, mais moi, dans ma collection, j'ai tout dans ma tête. C'est que je sais quelle pièce j'ai, je sais quelle pièce j'ai pas. Et il n'y a pas un truc où je vais hésiter en me disant « Ah, je sais pas si je les ai, il faut que je le rachète ou pas. » Je vais tout de suite te dire « J'ai ça en stock, ça il me le manque, ça il me le faut. » C'est ça pour le coup, c'est tout, voilà, tout est gravé dans ma tête, mais et vu que pour l'instant je suis pas dans une logique de tout revendre, enfin je dis pour l'instant, je pense que je serai jamais dans une logique de tout revendre, mais
il faudrait que je le fasse un jour. Non mais t'inquiète pas, tu le feras pas. Voilà, cherche pas, tu le feras pas. C'est que on le dit tous qu'on va le faire, on le fait jamais. Voilà.
Ouais.
C'est que par sécurité, par sécurité,
si
on se le dit. Ouais, par le
coup,
ouais,
le fasse,
ouais. Ouais, mais voilà. tu le dis parce que c'est l'instant T. Mais ouais. Il faudra le faire réellement, on en reparlera un jour.
Disney Plus, je préfère regarder les trucs sur Disney Plus plutôt que faire la panthère.
Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est légitime ici et tout, mais je pense que, en fait, vendre, on a tous cet esprit-là de vendre ses pièces, parce qu'à un moment ou à un autre, on veut tirer, pas un trait, mais on veut changer le quotidien.
Ah, je parlais pas de vendre, je parlais de faire l'inventaire.
Mais faire l'inventaire, ouais, ne serait-ce que de faire
l'inventaire. Non, vendre, non.
L'inventaire, c'est te rendre compte que t'as acheté beaucoup de choses, ouais. même trop de choses, voilà, et que t'as acheté des merdes, entre guillemets, comme moi.
Ouais, non.
Très cher, et voilà.
On en a tous acheté des merdes très chères.
Ouais, et t'en rendre compte que. Mais je pense que un jour, que je vais pas compter les pièces, qu'après c'est toujours le concours de qui est-ce qu'elle de la plus grosse et compagnie, mais c'est surtout de se rendre compte de l'importance qu'a pris la collection dans notre vie sans se rendre compte. Parce que quand t'achètes 10 blisters, allez, tous les trimestres, voilà, ou 5 blisters, ou 3 blisters tous les trimestres, mais 4 trimestres dans l'année. Tu vois,
ah, parce qu'on achète les pièces, on les achète petit à petit les pièces, et du coup on voit, c'est vrai qu'on ne la voit pas grandir la collection.
On la voit pas grandir, voilà. Et c'est au fil des années que tu te rends compte, voilà.
Ouais.
Et c'est des choses que, moi par exemple, je prends juste un exemple. Alors, qu'est-ce qui m'a fait sourire quand regardé la dernière fois c'était les minifigs Lego, voilà. Dans les emballages plastiques, tu sais, on achète emballage plastique. Alors j'en achète souvent, les 3, 4, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et en rangeant le haut d'une pièce, parce que j'ai aussi envahi la pièce de mes enfants qui sont grands maintenant, qui font leurs études à l'extérieur, j'ai envahi leur pièce pour mettre des pièces. Et j'ai découvert qu'en fait, j'en avais un paquet sans m'en rendre compte. Et je me suis dit qu'au quotidien, je ne me rendais pas compte. Mais quand ça fait 7 ou 8 ans que tu le fais,
ouais.
d'acheter, allez... 1 ou 2, 3 pièces à 5 euros tous les mois. Voilà, ça fait 15 euros. Il y en a 12, ça fait ainsi de suite. Et au fil du temps, ça fait énormément. Voilà. Et on ne se rend pas compte quand c'est fait de façon occasionnelle. Quand c'est... Mais quand tu prends le temps de t'asseoir, de reposer et de valider, tu dis oh là là. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi ça le charme. C'est aussi ça intéressant. Bah oui. Voilà. Je pense que. Pardon.
Non, mais t'inquiète, vas-y, je te laisse terminer.
Je disais, il faut bien voir que quand on évoque ça, c'est pas une histoire de coût. Parce que là, je parlais de choses à 5 euros. Voilà, on peut. Il n'y a pas de valeur de coût dans une collection. C'est-à-dire qu'il y a eu les cartes Leclerc, par exemple. Les cartes Leclerc, ça me fait rire. J'ai 5 albums complets. Je sais pas quoi ça me sert. Voilà.
Eh ben, à un moment donné.
T'en veux un ?
Bon, écoute, à l'occasion.
Ouais, bah, je t'en mettrai de côté.
Bon, écoute, Raphaël, ça fait bientôt une heure qu'on
parle
de la gestion de la collection. Ouais. On va juste terminer par une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas te calmer dans tes achats ou ça va continuer comme avant ?
Tant que je serai vivant, j'arrêterai pas parce que je crois aussi, c'est ce qui me donne le quotidien pas d'une vie classique, mais c'est le piquant. C'est-à-dire que ça me permet de m'évader aussi, voilà, du quotidien. Le quotidien avec le travail dodo et compagnie, toutes ces choses-là. Ça me permet un peu de dégager, de prendre du recul par rapport à tous ces éléments-là. Rencontrer des gens qui sont passionnés aussi, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas pour ça que je mets ma famille de côté. Hein. Non, je n'arrêterai pas. Voilà.
Eh bien, j'ai envie de faire exactement la même réponse que toi.
Mince.
Voilà.
Voilà.
En fait, j'aurais dit la même chose que toi.
Donc, c'est vrai. Bon.
Voilà, j'ai pas radoté. Par contre, je pense que dans le spectre Star Warsien, je vais pas me lancer dans des pièces de la nouvelle trilogie qui va sortir, par exemple. Tu vois, là, je vais juste me concentrer mes pièces sur la saga Skywalker. Et le Mandalorian, voilà, en plus, ouais. On va dire. Et les spin-offs qui sont sortis, quoi. Mais là, en 2022, il va y avoir plein de nouveaux films et tout qui vont sortir. Je vais pas commencer à collectionner ça. Je vais les voir au cinéma, je vais les acheter en Blu-ray, en DVD, je me ferai les autographes. Mais tout ce qui est jouets, figurines et tout, je vais me concentrer sur les personnages que je connais déjà et que j'aime bien. Voilà.
Ouais, mais c'est ce cas, on en reparlera quand tu auras ton fils que tu mèneras au cinéma.
Oui, mais je l'achèterai, mais pas pour moi.
Comme moi, et que j'ai acheté des Jabba, comment ça s'appelle, Jar Jar Binks, je l'ai acheté pour mes enfants, quoi. Voilà.
Ouais. Voilà. Mais, donc, voilà. Ouais, mais c'est pas pour nous, voilà.
Ouais, c'est ça, exactement.
Voilà. Bon, écoute, Raphaël, c'était bien bon de te retrouver pour une nouvelle émission.
Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir.
Je sais pas ce sera quoi le thème de la prochaine, mais avec le confinement, ça tombe. On va en refaire une très vite, on l'espère.
Oui, je crois.
On va pas attendre 6 mois pour vous refaire une nouvelle émission collector.
Ouais.
En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter.
Autant que nous, oui.
Voilà.
À échanger.
Comment on peut te retrouver sur Internet, Raphaël?
Je crois que le plus simple, c'est sur Facebook. Vous allez taper Raphaël meetingbox.net ou tout simplement sur Meetingbox. Vous envoyez un message. Il y a notre cher... super attendant, j'ai pas eu son prénom, il va me tuer, Paul qui fera passer le message s'il faut, mais sinon sur Facebook vous me trouvez facilement quand vous tapez Raphaël Gonot Meeting Box, Raphaël tout simplement Gonot, G-O-N-O-T, donc pas la page pro, hein, la page perso, et puis de là avec grand plaisir à changer avec vous, et ça fait vraiment plaisir d'échanger, j'ai beaucoup d'échanges assez comiques avec d'autres personnes hors Star Wars sur la vie quotidienne des collectionneurs qui est assez marrant quand même, voilà.
Et moi, sur Facebook, c'est à Sébastien Galano ou tous les jours sur Planète Star Wars via les actualités et sur la page de Stars en direct également, voilà. Et sur Instagram, à Stormy Seb. De la part de Raphaël et de moi-même, j'aimerais vous souhaiter à tous un bon confinement et que la force soit avec vous.
Et que la force soit avec vous.